Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mercredi 6 mai 2026, il est 6h avant minuit. Merci d'écouter l'émission d'information locale de Syllab. En tant qu'annécienne de naissance et bretonne d'adoption, je ne pouvais pas passer à côté de cette info. Un film rennais a été sélectionné par le Festival international du film d'animation d'Annecy. Son titre, Séraphine, sa société de production JPL Film, basée à Rennes donc. Budget du film, 7 millions d'euros quand même. Séraphine sera diffusée dans la sélection Work in Progress parce qu'il est toujours en cours de fabrication. Sa réalisatrice, Sarah van der Boom, signe le premier gros long métrage dans l'Ouest. En marionnettes animées. Les marionnettes, les costumes et les accessoires ont été réalisés à Rennes. L'histoire, adaptée du roman éponyme de Marie Desplechin, nous ramène en 1883 à Montmartre, 10 ans après la Commune. Une communauté panse ses blessures et soigne ses traumatismes grâce à une petite fille. Plusieurs comédiennes connues ont prêté leur voix à des personnages de la production. Par exemple, il y a Camélia Jordana, Béatrice Dalle ou encore Corinne Maziero. Pour voir Séraphine au cinéma, il faudra quand même un petit peu attendre, au moins jusqu'à l'automne 2027. En attendant, vous pouvez écouter le flash d'Estelle.
Cagoule rose sur la tête, seins nus et fumigène à la main, les Femen et les Pussy Riot ont manifesté cet après-midi devant le pavillon russe à Venise. En cause, le retour de la Russie à la Biennale de Venise, inaugurée aujourd'hui, avant son ouverture au public le 9 mai. Une décision prise par la direction de la Biennale de Venise, menée par Pietrangelo Buttafuoco, malgré l'opposition du ministre italien de la Culture. Moscou était persona non grata depuis 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Cette décision a suscité une avalanche de protestations diplomatiques, de tribunes d'artistes et de crispations politiques. L'Union européenne a menacé de suspendre, voire d'annuler, sa subvention de 2 millions d'euros sur 3 ans. Autre coup de théâtre, la démission du jury international, annoncée le 30 avril pour dénoncer la présence de la Russie et d'Israël. Il sera remplacé par un vote du public. Changement de cap à Washington. Donald Trump a annoncé cette nuit la suspension de son projet Liberté, un dispositif d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz. Une décision prise à peine 24 heures après son lancement, à la demande de plusieurs pays, après de grands progrès dans les négociations. Les États-Unis se retirent, mais Trump conserve un discours guerrier. Il menace de bombarder l'Iran avec une, je cite, « intensité bien plus forte qu'avant si un accord n'était pas conclu ». Sur le terrain, les tensions restent vives. Le porte-conteneur San Antonio de l'entreprise française CMA-CGM a été attaqué hier dans le détroit d'Ormuz. Des membres d'équipage blessés ont été pris en charge. Le navire, lui, a subi des dégâts. Apple va verser 250 millions de dollars à des clients et clientes. Un recours collectif de consommateurs, consommatrices et actionnaires accuse le géant californien d'avoir dupé des millions d'acheteurs d'iPhone. Léonore nous en parle.
Avant d'analyser ce qui se joue au tribunal fédéral californien, reprenons depuis le début. Pour comprendre l'affaire, il faut remonter à septembre 2024. Dans des publicités américaines, l'entreprise met en avant des nouveautés IA disponibles sur les iPhones à vendre. On y voit la star de Game of Thrones, Bella Ramsey, promouvoir l'intelligence artificielle promise pour l'iPhone 16. Le but, augmenter les ventes, bien sûr. Le problème, la firme a confirmé après le lancement de la campagne de pub le report de l'assistant personnalisé Siri. Elle a retiré les publicités après l'annonce. En 2025, lors de la conférence sur les résultats d'Apple, le directeur général Tim Cook a concédé que le travail sur Siri prendrait plus de temps que prévu. En décembre, Apple a annoncé le départ de son principal responsable de l'IA, John Gianandrea, ce qui n'a pas arrangé l'affaire. Dommage, car selon une enquête de Morgan Stanley, le Siri amélioré était la fonctionnalité Apple Intelligence que les acheteurs potentiels d'iPhone attendaient le plus.
Le recours collectif accuse donc Apple de publicité mensongère ?
C'est ça, le groupe d'acheteurs et d'achetrices américains affirme que l'entreprise les a induits en erreur. Ils attendaient des fonctionnalités qui se sont avérées être des vaporwares, excusez-moi pour l'accent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un terme du secteur désignant un produit annoncé avant même d'exister. Selon eux, Apple a, je cite, promu des des capacités d'IA qui n'existaient pas au moment des faits, n'existent pas aujourd'hui et n'existeront pas avant 2 ans ou plus. Ce constat est également fait par l'organisme américain de régulation publicitaire. Pour le Better Business Bureau's National Advertising Division, l'entreprise a effectivement laissé croire que le nouveau Siri augmenté à l'IA était disponible dès à présent.
Mais alors comment ça va se régler tout ça ?
Alors, une des particularités de la justice américaine, c'est la possibilité de proposer des accords. C'est-à-dire que les accusés et la victime s'arrangent devant la justice pour trouver un terrain d'entente à l'amiable. Pour calmer l'affaire, Apple a proposé une indemnisation de 250 millions de dollars. En France, ça représente à peu près 213 millions d'euros. Il s'agit de l'un des règlements à l'amiable les plus importants proposés par Apple. Les personnes ayant participé au recours recevront 25 dollars par appareil acheté aux États-Unis entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Les téléphones éligibles à cette indemnisation, sont les iPhone 16 ainsi que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. L'accord ne comporte en revanche aucune reconnaissance de la faute de la part d'Apple. La marque a expliqué au Financial Times avoir proposé un accord pour, je cite, « rester concentrée sur ce qu'elle fait de mieux, offrir les produits et services les plus innovants aux utilisateurs ». Les avocats des plaignants et plaignantes pourraient recevoir jusqu'à 28% du fonds, soit 70 millions de dollars. L'accord doit encore être approuvé par le juge Noël Wise. Le tribunal fédéral du district nord de Californie rendra sa décision le 17 juin 2026.
Merci Léonore. Un autre géant des GAFAM a lui aussi pris la parole hier soir. Amazon a annoncé investir 15 millions d'euros en France. Le plan de financement durera 3 ans. La somme la plus importante jamais annoncée dans l'Hexagone. Elle permettra, selon le directeur général d'Amazon France, des liaisons plus rapides, mais aussi une réduction de l'empreinte environnementale et des prix de la firme. Une partie de la somme sera également allouée à la construction des sites logistiques. Dans le secteur, la multinationale américaine promet plus de 7000 emplois en CDI. Des postes devraient ouvrir dès cette année avec la création de 3 centres de distribution dans le nord de la France et aux alentours de Lyon. Un écart persistant entre engagement affiché et réalité en rayon. Ce matin, les associations Que Choisir Ensemble et No Plastic in My Sea ont publié une enquête édifiante. Le plastique reste omniprésent dans les rayons alimentaires. Entre le 7 et le 21 février dernier, les enquêteurs et enquêtrices ont visité 1659 enseignes, tous types confondus, traditionnels, hard discount et bio. Le constat interroge. La loi climat et résilience fixe pourtant un objectif de 20% des produits sans emballage d'ici 2030. Un autre texte, la loi AGEC, impose la fin du plastique à usage unique à l'horizon 2040. Face à cette situation, les deux associations appellent les distributeurs, gouvernements, parlementaires et éco-organismes à accélérer la réduction des emballages. Et sur le terrain, la mobilisation s'organise aussi contre le plastique dans nos assiettes. À Rennes, le collectif Cantine sans plastique a repris ses actions de tractage devant les écoles pour soutenir sa pétition. Objectif, faire pression sur la ville. Elle prévoit une sortie totale du plastique dans les cantines pour 2029. Un calendrier jugé trop lent pour les parents. Depuis plus d'un an, la loi interdit dans les communes de plus de 2000 habitants de réchauffer les repas dans des barquettes en plastique. Sous la pression du collectif, la municipalité a revu son calendrier. 7 des 89 écoles rennaises passeront à l'inox entre juin et septembre 2026. Un lieu où l'on circule, où l'on échange, où l'on imagine d'autres façons de faire société. C'est le village des possibles, organisé par Alternatiba, entre stands associatifs, débats et initiatives citoyennes, le 25 et 26 avril au MAI François Mitterrand. Marilyn y a récolté quelques avis.
Dans les allées, ça circule doucement. On s'arrête, on discute, on écoute. Ici, pas de parcours imposé. Le village se découvre comme un marché au fil des curiosités et des rencontres. Une déambulation intuitive, pensée pour attirer, interpeller et surtout sensibiliser.
Combien de gens on est à la déco ?
Combien de gens ?
5. Ok, bah du coup 4 personnes avec
nous. Nous sommes au village des possibles, organisé par l'association Alternatiba. Un espace où se croisent associations, collectifs et citoyens engagés, tous réunis autour d'un même objectif. Apprendre, s'organiser et construire ensemble un monde plus juste. Premier arrêt, dans un tiers-lieu citoyen. Thierry Merle, nous explique.
Un espace qui a été créé par Jean-Michel, là, qui a un tiers-lieu dans les Côtes d'Armor et qui a une exposition itinérante qui est chargée plutôt de valoriser finalement ce qu'est toute la vie citoyenne et associative, la richesse de la vie associative. Tous ces gens-là finalement travaillent à œuvre un peu pour changer la société un peu dans la même direction. Ce qu'on essaye de faire, c'est un peu une logique un peu d'éducation populaire, c'est-à-dire on donne à voir pour simplement que les passants se disent « Ah ben oui, c'est vrai que tout ça, il y a ça qui est intéressant » et ils font un petit peu leur course en matière de centre d'intérêt, sortir de ces juste des habitudes de pensée, quoi.
Le parcours continue et mène jusqu'à une librairie engagée.
Je m'appelle Virginie Messonnier, j'habite le quartier de Maurepas-les-Gailleuls. J'ai décidé de venir collaborer, on va dire, avec l'Astrolabe, qui est une librairie indépendante installée tout près de chez moi, parce que je crois absolument que c'est un commerce de première nécessité.
Xavier, libraire à l'Astrolabe, complète.
C'est un festival qui est raccord avec nos valeurs, hein, évidemment, et donc on ne pouvait pas ne pas être présent à un festival qui défend ces valeurs inclusives qui ont tendance à bien disparaître en ce moment. Donc toute action est évidemment importante et notre présence donc est ici importante.
Le village des possibles, c'est plus qu'un événement. C'est un espace au sens large, un lieu d'expérimentation, mais aussi un cri d'espoir, l'espoir de vivre dans un monde où solidarité et inclusion ne sont pas des slogans, mais des réalités vécues.
Merci Marilyn. Et à Rennes, cette énergie collective se prolonge avec le printemps citoyen jusqu'au 30 mai. Un temps pour échanger, s'impliquer et faire vivre concrètement les idées de solidarité et d'inclusion. Toutes les infos sont à retrouver en ligne et sur les réseaux des organisateurs. Il est officiellement le plus vieux festival étudiant de France et le plus grand rassemblement de Solex en Europe. Rock and Solex fait son retour dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour une 59e édition. Au programme, ce soir, place à un fest-noz au foyer de l'INSA pour lancer les festivités. Tout au long du week-end, les scènes vibreront au son de Nono La Grinta, Bambi, Saint Graal, mais aussi des collectifs DJ pour une ambiance techno. Le Rock'n Village s'installera sur le campus de Beaulieu. Et bien sûr, impossible de manquer les mythiques courses de Solex à découvrir gratuitement.
Elle vous a présenté les infos tous les mercredis cette année. Et puis une dernière fois ce soir, c'était le Flash d'Estelle. Merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On passe à l'interview. Qui est-ce que tu reçois ce soir, Roman ?
Fantasy, science-fiction, fantastique. Du 9 au 12 mai, l'Université de Rennes 2 accueille une nouvelle édition du festival Sirène. Pendant 4 jours, le campus se transforme en rendez-vous des cultures de l'imaginaire, entre littérature, table ronde, jeux de rôle, expositions et concerts. Une programmation pour tous les goûts et pour tous les publics, on va le voir. Pour en parler, nous recevons Nolwenn Troel-Sauton, coordinatrice du festival Sirène, habillée d'un long gilet à carreaux bleu et noir. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de parler de la programmation, il y a une belle affiche pour annoncer cette 5e édition. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas sous les yeux, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, tout à fait. Donc, cette année, on a demandé à l'artiste rennaise Nombriliste de nous proposer une affiche autour de la thématique naissance et renaissance. Et donc, elle a choisi de nous faire un dessin de guerrière en trois quarts, armée d'une... Enfin, elle porte une armure et elle est transpercée par une épée. Les tons sont... Donc, le style de Nombriliste, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est plutôt un peu manga français, si on devait un petit peu donner l'énergie qu'elle dégage dans ses traits. La guerrière a des longs cheveux bruns et toute l'affiche est dans les tons entre vert, qui tire un petit peu sur le jaune, et le rouge du sang, qui tire un petit peu sur le marron.
Et qu'est-ce que cette affiche raconte de l'esprit du festival ?
Je ne sais pas exactement, je pourrais pas parler au nom d'Élise Torchin, mais je considère qu'elle va véritablement dans l'optique des choix de Xavier Dolo, qui est notre directeur artistique, à savoir chaque année de trouver une nouvelle personne pour créer notre affiche. L'année dernière, c'était François Barranger, il y a 2 ans, c'était Anouk Faure. Et donc l'idée, c'est vraiment de chercher à mettre en avant des illustratrices qu'on considère avoir une place importante dans ce que nous, on imagine être l'univers des imaginaires aujourd'hui, quoi.
Et comment est née l'idée de faire un festival autour des cultures de l'imaginaire ?
Alors, on a une histoire un petit peu particulière, parce qu'en fait, au départ, Ouest Hurlant et Sirène, le festival Sirène était le même festival. Et en fait, suite à des problématiques logistiques, en fait, on s'est retrouvé à se scinder en deux festivals. Et donc, nous, on devait garder initialement que la partie scolaire dont on parlera ultérieurement. Mais on a décidé de rajouter nous-mêmes, par rapport à des thématiques qui nous semblaient importantes, on a décidé de rajouter vraiment l'aspect aussi grand public, parce que ça nous semble essentiel aujourd'hui dans ce que peuvent proposer et proposent en tout cas les autoristes qu'on reçoit, nous, sur le festival, quoi.
Et pourquoi avoir implanté ce festival consacré à l'imaginaire sur un campus universitaire ?
J'en profite pour faire un tout petit rectificatif par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, les journées grand public, elles auront lieu à la Cité universitaire Sévigné, parce qu'on est en partenariat annuel avec le CROUS. Donc les deux journées publiques, elles vont s'effectuer là-bas, et c'est les journées scolaires qu'on va faire sur le campus. Donc l'idée de faire les journées scolaires sur le campus, c'est essentiel, parce qu'en fait, tout l'enjeu initial politique du festival, c'est de faire venir les élèves du secondaire, et notamment ceux des ce qu'on appelle dans leur jargon administratif, les REP, les ZRR, qui vont être tous les quartiers dits populaires. Ça change toutes les je ne sais plus combien d'années. Donc l'idée, c'est vraiment d'axer vraiment sur l'université n'est pas un endroit de savoir légitime, inaccessible, et de décloisonner en fait l'université pour la ramener accessible. Ce qu'il faut savoir sur le quartier, par exemple, c'est que les habitants, habitantes du quartier font un détour et ne traversent pas l'université. Alors que, c'est pareil, ils ne vont pas à la bibliothèque. Et tout ça, on le sait, nous, à force d'avoir côtoyé des gens du quartier, la MJC, etc. Et donc, l'idée de ce festival, à la base, c'est vraiment de donner, de rendre accessible, en fait, l'idée même d'entrer dans une université. En ayant un public que je vais appeler entre guillemets captif, c'est-à-dire les élèves du secondaire, et leur dire ok, ça t'est accessible, c'est un endroit qui est pour toi via un médium qui sont les littératures de l'imaginaire. Et Xavier tiendrait à préciser que c'est aussi pour amener, parce qu'il y a aussi un concours de nouvelles pour les élèves, c'est aussi d'amener les élèves en fait à s'intéresser aux littératures par le sous-genre ou considérées comme telles des littératures de l'imaginaire, qui est, enfin, en tout cas, on le sait pour une bonne partie d'entre nous, les littératures les plus accessibles, quoi.
Donc il y a un concours d'écriture, est-ce qu'il y a autre chose dans la programmation scolaire pour les jeunes publics ?
Ouais, alors on a un concours d'écriture, et elles ont aussi la possibilité de voter pour plusieurs œuvres. Il y a un prix collège, un prix lycée, il y a un concours d'illustration aussi pour celles qui ne seraient pas à l'aise avec l'idée d'écrire, et les concours de nouvelles peuvent être individuels ou collectifs, et je ne vais pas spoiler, mais cette année par exemple, les vainqueurs du concours collège, c'est une classe entière.
Selon le Centre National du Livre, une enquête récente du Centre National du Livre, un jeune sur deux, entre 12 et 19 ans, ignore qu'il existe des auteurs et des autrices vivantes. Quand on entend ça, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une urgence à recréer la rencontre avec le livre ?
Oh oui, tout à fait. Je pense que la rencontre avec le livre, ça fait partie des enjeux essentiels. Je pense que, et j'ai l'impression de parler un peu comme un vieux, mais il y a ce rapport à l'instantanéité qu'on est en train de vivre vraiment dans notre génération. Enfin, moi, j'ai 40 ans et j'ai vraiment vu le truc se mettre en place. Nous, on croit vraiment à ce qui est devenu un peu slogan, mais auquel moi je crois vraiment, c'est la réinvention des futurs possibles. Et je pense qu'à travers les littératures, et pour ça on a besoin du temps de la lecture, de s'imaginer d'autres futurs possibles que ceux qu'on nous propose. Et en fait, par ça, il faut faire du rêve aussi, quoi. On peut pas être tout le temps que dans la lutte politique et la colère. Il faut proposer des futurs désirables. Et je pense que les littératures proposent ça et proposent un peu ce truc de dire tu peux t'évader. Et tu as cette possibilité-là. Et en fait, à travers ça, à travers ce moyen-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer dans les textes et qui permettent vraiment de prendre ce temps pour élaborer dans son esprit quelque chose. Et je trouve que c'est aussi un temps seul. Et c'est hyper important dans l'interrelation aussi d'avoir ces moments seuls qui ne sont pas connectés vers l'extérieur. Et en fait, c'est de soi à soi un peu la lecture. On imagine tous des choses différentes quand on lit. Donc, ouais, je trouve ça hyper important.
On arrive à une autre partie de la programmation, celle du grand public. Comment on arrive à réunir des scolaires de différents niveaux et un grand public autour d'un même événement ?
C'est une bonne question. Ça aurait été une question pour Xavier, parce que c'est un travail qu'il a fait de longue date. Je pense que déjà, la première chose qui se passe, c'est qu'on sait où on se situe, je veux dire politiquement, culturellement, et que ça aide déjà beaucoup à cibler un public. Les littératures de l'imaginaire ont beaucoup changé et je pense que ça a vraiment permis là dans les auteurs autrices qu'on invite nous que des personnes francophones, donc l'idée c'est vraiment de se décloisonner un peu du côté surtout américain des littératures de l'imaginaire qui sont dans les un peu les plus connues, les plus encensées. Et donc le travail c'est de chercher des auteurs autrices qui peuvent à la fois écrire de la jeunesse et de l'adulte, et d'essayer de créer autour de ça des tables rondes qui vont vraiment faire du sens autour de sujets où nous, enfin Xavier surtout, les connaît, ces auteurs-autrices qu'on invite, et sait que ça va permettre des tables rondes de qualité, quoi.
Et quelles sont les grandes figures de cette programmation ?
Alors moi je dirais, mais ça c'est très personnel, que cette année on reçoit Yasmine Djebel qui était notre marraine d'il y a 2 ans. Yasmine qui écrit des œuvres, moi je trouve, pour du young adult de très grande qualité, où elle réinterprète un peu tout ce qui va être mythologie arabe voire berbère, et qui met des personnages féminins au centre de ses œuvres. Elle fait aussi de la poésie, il y aura Yasmine, qui est de grande qualité sur les tables rondes en plus. Elle les prépare hyper bien et c'est hyper intéressant, ça va très très loin. Il y aura Sephora Pondi, qui est une autrice que j'ai découvert cette année là sur son livre Aval, qui est un livre de body horror saisissant au possible, et voilà, qui écrit des choses incroyables pour... c'est toujours pareil, c'est l'idée du livre de genre. Et donc nous, on a pas mal d'autrices qui font du livre de genre, et notamment sur le body horror. Enfin, on en parlera peut-être juste après, mais on a notamment une table ronde d'autrices sur le body horror qui s'appelle J'habite mon corps, où il y aura 3 autrices qui écrivent du body horror vraiment de grande qualité. Tu peux avoir qui si dans les auteurs-autrices, je trouve qu'ils ont fait du bruit, on a Claire Duvivier et Guillaume Chamadadjian qui seront là. Donc c'est les auteurs de tous les cycles La Tour de Garde. Donc c'est Capitale du Nord, Capitale du Sud, et elles ont écrit ensemble, conjointement. Et donc elles ont écrit chacun 3 livres. Et en fait, Sirène, le festival a fait un recueil d'essais avec la maison d'édition quoi de ces 2 autrices, et du coup on a une table ronde qui va être là-dessus. Donc il y aura les 2 autrices qui seront là les 4 jours parce qu'ils vont aussi faire du scolaire, donc ça c'est trop chouette. Il y aura Fabien Velman qui a écrit Satani, qui est une BD qui a hyper bien marché, et notre marraine dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle H Le Noir, qui est quelqu'un de très grande qualité, qui écrit des textes très drôles, très humbles, et qui sera présente sur tout le temps du festival aussi.
Avant de revenir sur les tables rondes, je rebondis sur Hélène Lenoir. Pourquoi ce choix en tant que marraine ?
Parce que Hélène est quelqu'un qui écrit vraiment des textes très intéressants, qui est elle est vraiment un peu de toutes les thématiques qui nous intéressent, c'est-à-dire par exemple Axel Lenouvel, le directeur exécutif de notre festival, est très intéressé par le jeu de rôle, les livres dont vous êtes le héros, et c'est vrai que c'est très intéressant sur le fait que ça remet les enfants au cœur de leur parcours de lecture. Et par exemple, Hélène a réécrit des œuvres de ce type avec une héroïne. Elle a un côté engagé très intéressant, et c'est quelqu'un qui nous suit depuis longtemps, et qui est humainement incroyable, donc c'était le choix de l'année, quoi. C'est vraiment notre coup de cœur.
Je reviens sur les tables rondes, j'en ai retenu 3 pour comprendre l'esprit de la programmation, et je te laisserai nous dire ce qui attend le public sur chacune de ces tables rondes. Donc la première, c'est Femmes du futur, de quoi on va entendre parler ?
Oui, tout à fait. Alors, Femmes du futur, elle aura lieu samedi à 13h30. Donc, elle sera avec... Il y aura Lucie Eder dessus, Floriane Soulars et Marie Tétard. Et donc là, on va vraiment réaborder la question de l'image de la femme fictionnelle. Enfin, et donc, comment a évolué cette image très figée et très genrée entre le début des littératures de l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que Xavier a choisi 3 autrices, quoi. Histoire qu'on puisse vraiment... elles se sont saisies de ces questions pour complètement travailler sur cette image qu'on a eue pendant très longtemps des femmes dans les romans, dans même au cinéma, etc. Enfin, on le sait très bien sur le test de Bechdel, etc. Qu'en fait, ce sont des images figées qu'on avait et que les autrices, je dirais depuis une vingtaine d'années surtout, ont vraiment commencé à travailler pour rentrer en force dans les littératures de l'imaginaire qui, au départ, étaient très, très masculines.
La deuxième, c'est une rencontre « Nous, voyageurs galactiques ».
Tout à fait. Alors, « Nous, voyageurs galactiques », ce sera samedi également. Ce sera à 13h30. Et il y aura Bruno Anselmi-Matangrano, Frédéric Roussel et Guillaume Chen-Manajan, dont on vient de parler. Donc là, on va vraiment partir un peu sur tout ce qui est le rêve de l'espace, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on explore. Et ça va être vraiment plus sur qu'est-ce qu'on recherche dans la conquête spatiale. Est-ce que c'est une conquête spatiale ou est-ce que c'est juste une exploration? Et comment on habite ça dans les récits d'imaginaire et l'évolution aussi des récits imaginaires autour de la question de l'espace.
Et la troisième table ronde, c'est Satani, vie, mort et renaissance d'une bande dessinée.
Oui, bah alors ça, ça fait partie des gros coups de cœur de Xavier. Il a adoré cette BD. Moi, je suis en train de la lire et c'est vrai qu'elle est de très grande qualité. Donc, c'est avec Fabien Vellman et ce sera à 15h le samedi, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est Fabien qui a écrit le texte. Les dessins sont des Carasquettes, un couple qui met en scène des BD, quoi, qui colorise des BD. Ça reprend un récit complètement loufoque où c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui rentrent dans une grotte. Et en fait, plus elles avancent dans la grotte et plus elles découvrent un monde englouti et caché des enfers. Et il y a plusieurs strates de monde dans ce début de grotte, en fait, qui s'avère être complètement un monde au centre de la Terre. Voilà.
On arrive déjà à la fin de cette interview. J'ai une dernière question pour toi, Nolwenn.
Dis-moi.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Sirène et hésite à venir ce week-end, qu'est-ce que tu lui dirais pour le ou la convaincre? Peut-être on n'a pas eu le temps de parler de spectacle, du concert, des jeux de rôle.
Ouais, bah, je dirais qu'on a énormément de choses à proposer sur le lieu. Rappeler, comme tu l'as dit, que c'est gratuit, qu'il va y avoir des concerts du Pixel Brass Band, on a des conférences sur le jeu vidéo, on a des expos, on peut manger sur site. Franchement, les tables rondes sont, moi je trouve, au niveau politique et culturel, de très grande qualité. Et que les auteurs, autrices qu'on a invités cette année sont assez, enfin à mon goût en tout cas, assez solides dans ce qu'elles ont à proposer et qu'on a des tables rondes de folie, quoi, vraiment. Je l'ai déjà dit, mais je le pense.
Et ben merci Nolwenn Truel-Sauton d'avoir été avec nous ce soir. Pour plus d'informations sur la programmation, rendez-vous sur le site du festival, festival-sirène.com. Et puis, on le rappelle, Scylla proposera un plateau spécial pour le festival Sirène en direct de la BU centrale de Rennes 2. C'est lundi prochain,
Le
11 mai.
Tout à fait.
Lundi. À 18h. Merci.
Merci beaucoup.
6h avant minuit.
On passe à la partie chronique de cette émission et hasard du calendrier. Aujourd'hui, on reste dans la thématique littérature puisque c'est la chronique des mots sur la langue de Loéza.
Des mots sur la langue. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à ses vœux. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps changer de manière étrangère.
Les livres de Loéza.
Bras qui se reposent, mes jambes qui dirigent. Mains accrochées aux rails du surf et torse légèrement relevé, menton haut, si mon limbre flotte. Il attend. Tout fluctue autour de lui. Des pans entiers de mer et de ciel surgissent et disparaissent dans chaque remous de la surface lente, lourde, ligneuse, une pâte basaltique. L'aube abrasive brûle son visage et sa peau se tend. Ses cils se durcissent comme des fils de vinyle. Les cristallins derrière ses pupilles se givrent, comme si oubliés dans le fond d'un freezer, et son cœur commence à ralentir, réagissant au froid, quand soudain, il la voit venir. Il la voit qui s'avance, ferme et homogène, la vague, la promesse. Et d'instinct, se place pour en trouver l'entrée et s'y infiltrer, s'y glisser comme un bandit se glisse dans un coffre pour en braquer le trésor. Même cagoule, même précision millimétrée du geste. Pour s'insérer dans son envers, dans cette torsion de la matière où le dedans s'éprouve plus vaste et plus profond encore que le dehors. Elle est là, à 30 mètres. Elle approche à vitesse constante. Et brusquement, concentrant son énergie dans ses avant-bras, Simon s'élance et rame de toutes ses forces, afin de prendre la vague de vitesse justement, afin d'être pris dans sa pente. Et maintenant, c'est le take-off, phase ultra-rapide où le monde entier se concentre et se précipite, flash temporel où il faut inhaler fort, couper toute respiration et rassembler son corps en une seule action, lui donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche, pieds bien écartés, le gauche en avant, regular, jambes fléchies et dos plat quasiment parallèle au surf, bras ouverts stabilisant l'ensemble. Et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère, celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence et de se concilier les éléments, de s'incorporer au vivant. Et une fois debout sur le surf, on estime à cet instant la hauteur crête à creux à plus d'1,50 m, étirer l'espace, allonger le temps, jusqu'au bout de la course, épuiser l'énergie de chaque atome de mer, devenir déferlement, devenir vague. C'était « Réparer les vivants » de Maëlys de Kerangal. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que dans ce livre-là en particulier, c'est important de ne pas savoir ce qui va arriver. Et si je racontais quelque chose, ça s'enlèverait vraiment de la force à votre lecture. Donc, je dis rien, mais j'ai choisi ce passage parce que je trouve qu'il est très évocateur de l'écriture de Maëlys de Kerangal. Une écriture qui a du souffle. Et comme ces personnages qui ont du souffle, et on voit leur corps, on voit le corps de ce surfeur. Ça nous parle de ce corps, et on les voit dans l'espace, on voit le mouvement. Donc elle sait nous immerger dans une réalité qui n'est pas forcément la nôtre, peut-être qu'on n'a jamais fait de surf. Et dans chacun de ses livres, elle nous immerge dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est vraiment comme de partir en voyage. Et je pense que c'est... Ou alors, c'est comme d'avoir les clés d'appartements qui ne sont pas les nôtres. Et comme ça, on peut aller découvrir comment c'est la vie des autres. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est très, très proche du réel, très proche des gens, proche de leurs sensations, de leurs émotions. Du coup, c'est très incarné. Et on peut dire que c'est pour de vrai, parce que c'est des vrais personnages. On y croit à fond et on finit par avoir le cœur qui bat pour eux. Elles nous transportent, comme ça, d'un livre à l'autre. On est avec eux, dans des vies qui ne sont pas les nôtres. Et dans Naissance d'un pont, un livre précédent, elle nous avait proposé tout un univers autour d'un chantier de pont en train de se faire. Et on allait de l'ingénieur à l'ouvrier, en passant par plein d'autres personnages qui étaient tous plus ou moins touchés par ce chantier en train de se faire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle elle brasse tous les milieux sociaux et elle nous donne comme ça à voir et à percevoir des mondes qui ne sont pas les nôtres. Et elle doit se documenter à fond, j'imagine, pour ça. Ces livres sont le fruit de ce travail. Et ça, je trouve ça très rafraîchissant de qu'il y ait autant de réel dans ces livres. C'est pas les énièmes personnages en train de se demander dans un café de la rive gauche s'ils sont amoureux de Joséphine ou nananana. C'est des personnages qui ont de la chair. C'est des gens, oui, ils ont des corps et on est avec leur corps et on est avec eux, tout simplement. Il y a de l'action dans les livres de Maëlys de Kerangal. Il y a vraiment de l'action. C'est assez épatant de voir aussi comment elle se renouvelle à chaque fois, mais toujours avec ce style marqué de phrases longues qui ont du souffle, où on voit les corps se déplacer. Et en même temps, elle intègre du jargon qui est plus ou moins heureux. À mon avis, il y avait un petit passage là qui coupait le mouvement, qui empêchait un petit peu, je trouve, le décollage du surfeur. On estime en ce moment le truc de crête à creux. Ça, c'est juste un tout petit peu dommage, je trouve. Mais sinon, ça marche. Je recommande toute l'œuvre de Maëlys de Kerangal parce que c'est son écriture, elle est vivante comme elle, qui est vivante en ce moment, qui est sûrement en train d'écrire quelque chose. On peut voir son œuvre en mouvement et en train de se faire. On peut imaginer qu'il va y avoir d'autres livres à venir, comme des petits pains tout chauds.
C'était la chronique littéraire de Loéza. Des mots sur la langue. À bientôt, Loéza, pour une autre chronique. Je crois qu'on a quelques messages sur le répondeur. On écoute.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Bonjour Cham, je voulais te recommander un petit podcast qui est bien, ça s'appelle Le Bal Banal. C'est produit a priori par Arte Radio, si j'ai bien compris, mais c'est surtout créé par Caro Dio et Charlie Vignoux. Et c'est vraiment super. Bon, j'en suis qu'au premier épisode qui s'intitule La Ronde des mots, mais ça explore l'enjeu des paroles en musique traditionnelle avec une façon de questionner la préservation du patrimoine et concilier ça avec des valeurs, on va dire, plus modernes. Ça parle notamment de ces complaintes qui sont pour beaucoup des récits de VSS plus ou moins vénères, et notamment l'histoire d'un chant qui se finit en féminicide. Et donc, de comment on fait, est-ce qu'on se permet de réécrire, à quel point les artistes doivent être, proactifs et proactives sur la sensibilisation auprès du public, sachant que on est sur des espaces où l'idée, c'est quand même de danser en transe toute la night. Donc, est-ce que s'intéresser à ce qui est dit, c'est si essentiel ou possible? Enfin, vraiment, j'en suis qu'à une bonne grosse moitié et ça m'a vraiment enthousiasmée. J'ai hâte d'avoir du temps devant moi pour de nouveau m'y plonger. Et je voulais vraiment souligner la qualité d'écriture de Caro et Charlie qui ont bossé là-dessus. Donc voilà, je vous invite à jeter une oreille curieuse. Et puis vous allez rencontrer du coup plein d'artistes trad. Vraiment, je sais qu'on est sur une antenne bretonne qui fait la part belle à la culture locale et patrimoniale. Je pense que les gens qui écoutent cette émission pourraient y trouver du grain à moudre. Et puis, je ne peux pas conclure ce message sans adresser une petite pensée au service civique. Oui, c'est la fin de quelque chose qui a été vraiment super, mais c'est le début d'autre chose. Et j'espère que ce début sera tout aussi enthousiasmant malgré le chagrin de se quitter. Bonne soirée.
Coucou l'équipe. Alors, il n'y aura pas d'info locale ni de quelque chose. Là, en ce moment, je suis un peu dans un coup de cœur musical, plutôt un classique. C'est un standard un peu connu. L'autre jour, j'ai écouté l'album de Randy Newman, donc un célèbre crooner américain pour ses célèbres bandes originales de Toy Story ou de Monstres et compagnie, donc Garde Fouanoui et tout ça. Il y a un album que j'ai écouté en vinyle que j'ai trouvé récemment au groupe Rennes. C'est un album sorti en 1977 qui s'appelle Little Criminals, où on voit Randy Newman sur un pont, c'est pas où, à New York ou à Los Angeles ou autre. Et un titre qui revient à l'esprit, c'est le titre Baltimore. Donc Baltimore, un titre qui parle de la vie de l'époque, de la ségrégation raciale, de la pauvreté et tout ça. Donc je me suis dit, mais il y a pas une version de Nina Simone qui a été reprise, et en fin de compte, ben oui, il y avait bien la reprise de Nina Simone, extrait de son album qui s'appelle Baltimore, sorti en 1968 chez CTI Records, et que c'est bien de juste réécouter encore depuis 2 semaines ou même 3 semaines. Et c'est vrai que ce titre-là, il est vraiment magnifique, et puis surtout la voix qui est un peu malade de Nina Simone à cette période-là, quand même, faut dire franchement bravo. Donc voilà, ben pour ceux qui voudraient trouver cet album, ben c'est un peu difficile à le trouver en vinyle. Et moi, je le cherche vraiment parce que bon, il y a des reprises comme Heavy Cream Box Change de Quincy Jones. Je pense au titre de Whiskers de Darry Hall et John O'Tapps. Il y a plein de trucs pas mal. Bon, l'album est pas, voilà, c'est un album culte, mais bon, grâce à ce titre Baltimore, donc vraiment, on sent le mélange entre le jazz, la soul et un peu du reggae. Et ça, voilà, ben pour un coup de cœur musical, tout en finesse. Voilà, allez, gros bisous à vous, et puis je m'appellerai plus tard pour laisser un autre message de reçu répondeur, peut-être pour un afro local ou peut-être pour un coup de cœur musical. Donc voilà. Allez, gros bisous à vous, ciao.
Merci chers auditeurs pour tous ces bons conseils et ces coups de cœur. Ben, si vous aussi vous avez des coups de cœur à nous faire partager ou autre chose à nous dire, n'hésitez pas, dites-le au 02 30 96 25 35. Ce soir à la technique, c'était Timothée. Merci à toi et à demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très
bien. 6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.